Dan Osman, vous allez l'adorer, mais aussi, je pense, le détester, parce que vous allez beaucoup transpirer des mains dans cet épisode. Je vais vous raconter sa folle histoire, qui malheureusement se termine tragiquement. Il aura marqué toute une époque et tout le milieu de l'escalade. C'est parti tout de suite pour la folle histoire de Dan Osman. Dan naît en 1963 de Les Osman et de Sharon Burks. Son père Les, il est américain d'origine japonaise et il est membre du groupe d'intervention du SWAT. Donc pour faire vraiment très simple, c'est l'équivalent, on va dire, du GIGN en France. Et sa mère, Sharon, elle est doublement championne du monde de course de baril. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sport bien américain, bien Far West, où le cavalier et sa monture doivent passer autour de trois barils le plus près possible et le plus rapidement possible. On n'a pas beaucoup d'informations sur l'enfance de Dan, si ce n'est que c'est un enfant assez dans sa bulle, rêveur, un peu dans un autre monde, et à tel point que sa mère lui donnera un surnom qui lui restera toute sa vie, qui est Dan I Forgot, littéralement Dan j'oublie, parce qu'il oubliait des anniversaires, des rendez-vous, ce genre de choses. Et en parallèle de ça, son père, lui, va lui enseigner vraiment les bases d'être un guerrier samouraï, parce qu'en fait, la famille Osman, ce sont des descendants directs du clan Takeshi, du clan de samouraï Takeshi du Japon, et du coup, il va lui apprendre comme ça les bases de l'aïkido, du bushido, comment contrôler son énergie vitale interne, le fameux ki en japonais ou chi en chinois. Et vous verrez plus tard que toute cette notion dans son enfance de contrôler ses émotions et ses énergies, ça lui servira dans ses grimpes. Non mais en vrai, avec des parents pareils, un héritage familial comme ça, t'as forcément une destinée hors du commun. On avance un peu plus dans le temps, on est milieu 75, Dan a 12 ans et sa mère l'inscrit à l'escalade. Donc là déjà, il faut remettre dans le contexte, l'escalade en 1975, c'est hyper confidentiel. Il n'y a même pas de salle comme on le connaît aujourd'hui. C'est tout juste les ébauches de peut-être qu'on peut designer des prises en bois pour les mettre dans des gymnases et s'entraîner l'hiver, parce que l'escalade en 75, c'est que en extérieur. T'as pas de salle, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment les prémices du sport. Dites-vous qu'en 1975, l'escalade en France, c'est ça.
Grimper. Oui, grimper. Il n'y a pas de geste plus naturel chez les jeunes, tous les médecins le savent.
L'année suivante, en 1976, t'as Jean-Claude Royer qui est aussi le premier 6B français. Pour ceux qui font pas d'escalade, je vais vous expliquer. En gros, les niveaux en escalade, ça va de 4 jusqu'à 9 aujourd'hui, et c'est divisé en sous-catégories A, B et C. Donc ça commence par le plus facile, 4A, puis 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, etc., etc. Dites-vous que le niveau 6B aujourd'hui, avec un an ou deux ans d'entraînement sérieux, tu l'as assez rapidement. À l'époque, en France, c'était le maximum jamais débloqué. Mais bref, revenons-en à Dan. Lui se considère comme quelqu'un qui progresse plutôt lentement. Il sent pas qu'il a un talent inné dans la grimpe parce qu'il lui aura fallu 8 ans d'entraînement et l'aube de ses 21 ans pour grimper pour la première fois une cotation 7+. En gros, le niveau 7, c'est considéré comme le début du niveau expert. Et à cette époque-là, en fait, c'est vraiment le top niveau. Donc, il commence déjà à se faire un petit nom dans le milieu des grimpeurs américains. À la fin des années 80, l'escalade est surtout le free solo. Donc le free solo, c'est la pratique de l'escalade sans corde, sans assurage, rien du tout, juste tes doigts et tes chaussons. Et ça, ça explose auprès du grand public, notamment grâce à des vidéos et surtout des documentaires. Je pense à La vie au bout des doigts de Patrick Hellinger, qui a d'ailleurs été nommé aux Oscars, faut quand même le rappeler.
Alors le solo, c'est, enfin pour moi, c'est l'escalade suprême. C'est-à-dire que tu n'as aucun moyen d'aide, tu passes en libre et sans aucune assurance. Il faut avoir une super concentration et le moindre faux mouvement ou équilibre ou si tes bras tétanisent, bon ben c'est la chute quoi.
Et au même moment, en France, t'as Alain Robert que vous connaissez sûrement pour ses grimpes d'immeubles extraordinaires. Il grimpait en free solo dans le Verdon, donc vraiment sur de la roche, sur de la falaise. Il a sorti des voies en free solo côté 8A+ et 8B. Encore aujourd'hui, c'est hardcore, mais à l'époque déjà, c'était mais un niveau stratosphérique. Et en 2023, t'as encore des voies de free solo que Alain Robert a fait qui n'ont pas été refaites tellement c'est juste fou. Et Alain Robert aura l'occasion d'aller aux États-Unis et de monter quelques falaises en free avec Dan.
Dan, donc, c'est un grimpeur américain que j'ai rencontré et de la même manière que moi, il grimpe en solo.
Ok, Alain.
Dans ces années-là, Dan, il est au top de sa forme, il fait partie des meilleurs grimpeurs américains, des meilleurs solistes aussi américains et même dans le monde. Et malgré tout, en fait, à cette époque-là, on peut pas vivre de l'escalade. Déjà qu'aujourd'hui, c'est compliqué, il n'y a pas de sponsor, il y en a un petit peu, mais il donne pas beaucoup d'argent. Tous les grimpeurs ont un peu ce même style de vie, de vivre parfois dans un van, dans des conditions un peu précaires. Lui, Dan, est charpentier, et il fait quelques chantiers comme ça pendant quelques semaines pour se libérer plusieurs jours d'affilée, pouvoir aller grimper, parce que sa vie, c'est voir ses potes grimper, être un peu sur la roche. Et vous vous souvenez de son surnom Dan I Forgot ? Et bah dans sa vie d'adulte, c'est un vrai problème pour lui parce qu'il oublie de payer ses factures d'électricité, les amendes qu'il reçoit pour stationnement ou pour excès de vitesse. Et ça arrive à un tel point critique qu'il se fait invalider son permis tellement il a des amendes liées à des infractions de la route qui s'accumulent chez lui. Et tout ça, si vous voulez, ça commence à peser un peu sur les épaules de Dan parce que bah voilà, pas réussir à vivre de sa passion, à avoir des galères d'argent et tout, c'est compliqué. Et la légende raconte que voilà, il y a des Français balèzes, on ne connaît pas leur nom, qui seraient allés aux USA et qui auraient grimpé la voie Slayer, qui est une voie très importante pour Dan, et ils l'auraient réussi à vue. Pour ceux qui font pas d'escalade, faire une voie à vue, c'est-à-dire que tu arrives devant la voie, tu connais pas l'itinéraire, tu connais pas la méthode pour grimper, et tu l'as réussi au one shot. Et lui, Dan, il a mis plus d'un an et un nombre incalculable d'essais pour réussir Slayer, qui est côté 8B, et apparemment ça aurait été le point de bascule qui l'a vraiment saoulé de l'escalade. Quelques mois plus tard, Dan se lance dans son nouveau projet, Phantom Lord, qui est situé juste à côté de Slayer. Et cette voie-là, en fait, il galère de ouf, il arrive à grimper, mais arrivé tout en haut, il y a une sorte de surplomb qu'il n'arrive pas à attraper. Et à chaque fois qu'il le rate, il tape une énorme chute libre de 15 mètres, le temps que la corde se tende, et grâce à la concavité de la cave, comme ça, il peut vraiment passer par-dessous. Et à force de tryhard, en fait, il se rend compte que ce qu'il aime dans Phantom Lord, c'est pas tant grimper et potentiellement réussir la voie, mais c'est la sensation de chute libre à chaque fois qu'il rate ce surplomb. Et là, dans son cerveau, il se passe un truc où il commence à prendre goût à cette sensation de chute. Et surtout, il arrive à dompter la peur de chuter, à s'en nourrir. Et ça, ça va lui déverrouiller énormément de choses dans la grimpe et surtout en free solo. Début 90, c'est l'explosion médiatique de l'escalade. C'est un sport qui devient maintenant presque mainstream. Et c'est aussi à cette époque-là que la cotation 9 est débloquée pour la première fois au monde par Wolfgang Gülich en 1991. Et il y a aussi une voie mythique, la voie Nose dans le Yosemite, qui est déverrouillée par Lynn Hill, qui est la première grimpeuse, mais la première grimpeur tout confondu, à réussir cette voie. Donc ça, c'est formidable. Sauf que Dan, lui, sa nouvelle lubie, c'est plus du tout l'escalade ou le free solo, c'est vraiment la chute libre sur corde. Et la chute libre sur corde, c'est pas du tout un saut à l'élastique avec un truc qui va se tendre et amortir. C'est une corde d'escalade qui certes se détend un peu mais qui est quand même globalement dure. Et tu sautes dans le vide et d'un coup la corde se tend, tu te prends une grosse décharge dans ton baudrier et voilà, t'es sauvé, t'es accroché par la corde. Mais c'est beaucoup plus violent que le saut à l'élastique. Et Dan, vraiment, c'est un tryharder, donc il va faire que des chutes libres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au fur et à mesure, il va augmenter les distances, il va se rendre compte aussi de la sacrée résistance des cordes d'escalade. Et surtout, il va mettre au point un système ultra ingénieux pour presque doubler, voire tripler les distances de chute. En fait, c'est un système en T, avec une corde horizontale qui est accrochée à deux ancrages très solides, et en dessous, la corde verticale. Ce qui fait que quand le grimpeur va sauter et que la corde verticale va commencer à prendre tout l'encaissement du saut, elle, la corde horizontale, va hop, se détendre et faire une sorte de parabole. Et c'est cette forme de parabole en fait qui va absorber le plus gros du choc. Grâce à ce système que Dan teste et approuve, il va rentrer dans une nouvelle dimension et il va augmenter les distances de corde d'une manière stratosphérique. Et l'un des terrains de jeu favoris de Dan, c'est le pont Forest Hill sur lequel il va sauter d'innombrables fois. Il va perfectionner d'ailleurs son système d'assurage. Ce pont, il est à 225 mètres au-dessus de la rivière North Fork. C'est là-bas qu'il établira officiellement son record du monde absolu de chute libre sur corde d'escalade, 201 mètres. Je ne sais pas si vous réalisez la distance. 201 mètres. Et pour vous dire, sur ce pont, il a vraiment tout fait. Il a sauté avec un vélo, il s'est mis la tête à l'envers, etc. Il a beaucoup travaillé, en fait, toutes ses postures dans les airs. En fait, c'est un ingénieur, il développe son système de cordes. Et ensuite, il y a toute une théorie sur les postures dans les airs, parce que dites-vous qu'avec ses hauteurs folles, si la corde s'enroule autour de son bras, ou pire encore, autour de son cou, au moment de l'impact et de la tension de la corde, ça lui coupe la tête ou les membres. C'est hyper dangereux. Et d'ailleurs, son lot de tryhard et son lot de réussites amènent forcément son lot d'échecs. Il s'est fait des grosses, grosses frayeurs. Notamment une fois où il avait mal calculé ses distances de corde et il a carrément touché la cime des arbres lors d'un saut. Il s'en est sorti avec quelques éraflures. Ou une autre fois encore où il a sauté et sur les 6 points d'ancrage qu'il avait, il y en a 4 qui ont pété. Donc il restait que 2 petits points d'ancrage qui retenaient sa corde. Si l'ensemble des points avait pété, bah il serait tombé avec sa corde et il serait mort quoi. Donc il y a quand même des moments où il se prend des petits taquets du destin en mode « Fais pas le fou, ce que tu fais c'est déjà beaucoup trop extrême ». Et petite pause dans le récit, ça vous permet de vous essuyer les mains 5 minutes. Je sais pas si vous avez vu, on a lancé un sub goal. Donc à chaque fois qu'on déverrouille un palier d'abonnés, ça débloque des contenus de fou. Genre sauter de la tour Eiffel en parachute ou décoller d'un immeuble en parapente. Et justement, là on est très proche de bientôt déverrouiller la marque de fringues à 900 000 abonnés. Donc abonnez-vous en masse. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un endroit où il y a un sub goal mystère. Est-ce que le sub goal mystère, ce serait pas sauter d'une grue à plus de 50 mètres de haut en mode Dan Osman avec une corde? Peut-être c'est autre chose, peut-être c'est ça. Le seul moyen de le savoir, c'est de vous abonner. Je vous laisse, c'est juste là. Forcément, avec toutes ces publicités et toute la surmédiatisation autour de ses exploits, bah, y a son lot de fascination, mais aussi son lot de controverses. T'as beaucoup de gens qui accusent Dan d'être juste stupide, de vouloir mourir, etc. Des choses que nous aussi, on peut entendre. Et qui disent que ça donne surtout une mauvaise image de l'escalade. Il y a même des articles de presse dont certains avaient titré « Really quite stupid » en parlant de Dan, donc pour dire gentiment, ça veut dire vraiment très très bête. Et en fait, le truc, c'est que ceux qui connaissent Dan, ses proches, sa famille et tout, ils savent que c'est loin d'être le cas. Dan, il a mis des années à développer son système d'assurage en T, justement. Il teste, il met des protocoles. Avant de sauter avec ses nouveaux systèmes, il envoie des sacs remplis de pierres pour simuler le poids d'un humain. Et il y va progressivement, tu vois. C'est pas il saute de 50 mètres puis de 400 mètres, c'est il y va 10 mètres par 10 mètres, etc. Mais comme dans tous les sports extrêmes, parfois, on est incompris. 1998, les Bleus remportent la Coupe du Monde de football avec Zidane Barthès, mais lui, Dan, il en a rien à foutre parce que lui, il veut juste battre ses putains de records du monde. Il a déjà tous les records, mais il veut aller encore plus loin en mode « je vais pousser mon sport le plus loin possible ». Et du coup, il a trouvé le spot ultime pour ça, Leaning Tower. Il va mettre une corde de 365 mètres entre deux formations rocheuses. Il y a la plateforme de Leaning Tower juste en haut et il va pouvoir sauter dans le vide et tenter de battre son record précédent de 200 et quelques mètres. Et du coup, il ramène quelques potes et il part pour l'installation ultime et tenter de changer la face du monde.
New site, first jumper.
We're actually doing this. It's fun.
L'installation est prête, il peut commencer son premier saut test où il va sauter seulement à 182 mètres et ça se passe à merveille. Et là, si vous voulez, en espace de à peine une semaine, il va tryhard les sauts, il va pouvoir comme ça augmenter progressivement les distances de chute. Il va passer à 230 mètres, ça va bien se passer, 245, 260. Donc là déjà, on est à plus 60 mètres de son précédent record sur le pont Forest Hill. Et là, on se prépare pour son saut ultime à 275 mètres de haut. 275 mètres de chute libre. C'est n'importe quoi.
Okay, give me a, from 15 there, Ross.
Il est sur la plateforme de lancement, les battements de son cœur s'accélèrent, il a du mal un peu à contrôler toute cette émotion qui l'envahit parce que 275 mètres, aucun humain au monde n'est allé jusque-là. Est-ce que la corde va tenir? Est-ce que le système va tenir? Est-ce que les points d'ancrage vont pas sauter? Il y a beaucoup d'émotions qui rentrent et là il se souvient un peu de la formation et de tout ce qu'il a appris dans son enfance à travers son père, à travers l'héritage justement des samouraïs et compagnie. Et cette énergie, le fameux ki dont on parlait, il va beaucoup travailler là-dessus, il va essayer de visualiser le saut, faire une projection mentale de lui dans les airs, et il compte comme ça, 1, 2, il laisse son corps légèrement partir vers l'avant, et il finit à haute voix comme ça, 4, 3, 2, 1, et il saute. Et là, la chute libre est beaucoup plus longue que d'habitude. Même ses potes se demandent si c'est normal que ce soit aussi long. Normalement, ils ont l'habitude d'avoir 4-5 secondes de chute libre et vraiment le bruit qui ressemble à un fouet de la corde qui se tend. Et là, il se passe rien. Et d'un coup, dans le silence, il y a ce vacarme, ce fouet qui explose dans toute la vallée. On entend Dan juste en bas qui hurle en mode « Fuck yeah !» Ça y est, il a battu le record. C'est officiel, c'est dans le Guinness Book. Il y avait les juges qui étaient là pour valider et attester de la performance. Dan Osman vient de rentrer dans l'histoire avec un saut en chute libre sur corde d'escalade de 275 mètres. C'est pas imaginable, 275 mètres. Je pense qu'un être humain normalement constitué a son cœur qu'il a juste avant. C'est pas possible.
What a rush that is. Can't believe it. Gnarly enough to climb something like this, but to fall down the entire face. What's wrong with people these days?
Quelques jours plus tard, Dan est avec ses potes, il est en train de discuter, donc tout le monde célèbre un peu ce nouveau record du monde, il est rentré, ça y est, dans l'histoire, dans la légende, et n'importe quel être humain serait dit, bon bah voilà, je passe un peu de temps avec ma famille, mes amis. Pas du tout, Dan, je vous ai dit, il a passé la vitesse supérieure, il en a rien à foutre, il dit à ses potes, on se retrouve demain, je vais battre un nouveau record, parce que le précédent saut s'est tellement bien passé, que là, ça y est, je me sens prêt. On va aller encore plus loin dans la barre mythique des 300 mètres. Tout est en place, les cordes sont installées, il est prêt, il a le harnais, et là il reçoit un coup de fil d'urgence, il décroche, C'est sa fille Emma qui a 12 ans. Emma, si vous voulez, c'est sa seule fille, son seul enfant. Et vraiment, pour lui, c'est toute sa vie. Genre, il pense qu'à elle, il parle que d'elle à ses amis. Chez lui, il a des photos d'elle partout, etc. Parce que malheureusement, il est divorcé de sa compagne. Emma vit principalement, du coup, avec son ex-femme. Et en fait, là, sa fille Emma l'appelle en pleurs parce qu'elle sait qu'en fait, il est en train de faire des nouveaux records extraordinaires. Ça passe à la télé. Et du coup, elle est tout simplement inquiète. Donc, il laisse tout le monde sur le set. Il laisse les cordes, il se casse et il part tout de suite voir sa fille. Bref, après quelques jours passés auprès de sa fille et sa famille, Dan retourne à Yosemite. Et là, en fait, sur le chemin, il se fait arrêter par les rangers du parc. Non pas pour ses grimpes excessives, ses free solo, etc. Mais juste parce que Dan I Forgot, en fait, il paye pas ses amendes. Et depuis quelques années, son permis a été invalidé. Et ça, c'est un crime fédéral. Et du coup, il est directement envoyé en prison. Donc là, en fait, sa famille, ses amis essaient de se cotiser pour payer les amendes. La caution est libérée. Et ça prendra en tout 14 jours. 14 jours pendant lesquels il sera incarcéré. Et une fois les 1500 et 21 000 euros d'amende réglés, Dan est enfin libre. Après toute cette histoire de prison, les potes de Dan et notamment le réalisateur de Master of Stone arrivent à le convaincre que en fait mec, ça y est, t'as juste pulvérisé déjà tous les records, t'es allé beaucoup plus loin que ce que le moindre humain aurait pu imaginer. Donc peut-être qu'il est temps de lever le pied, de passer à autre chose, passer du temps avec Emma qui s'inquiète aussi de plus en plus. Et Dan il acquiesce, il dit ouais c'est vrai, puis même en plaisantant il dit mes anges gardiens, ils ont déjà beaucoup trop veillé sur moi, ils ont fait beaucoup plus d'heures sup que prévu, donc il serait temps de les laisser prendre un peu de vacances, tu vois. Et du coup, il appelle son meilleur pote Dasher et lui dit, bah écoute mec, vas-y, demain, on va à la Leaning Tower et on démonte le système. Parce que dites-vous que depuis la fois où il a abandonné le set, toutes les cordes sont restées en place, tout est resté, parce que pour démonter le système, faut taper des grimpes qui sont très difficiles, et seul Dan et quelques initiés sont aptes à aller tout là-haut. Sauf que Dan, en fait, il a ça dans le sang, tu vois. Il arrive en haut de Leaning Tower, il voit l'install, tout est prêt, tu vois, et malgré le un mois de pluie, de givre sur la corde, tout est en super état. Et techniquement, il a juste à se clipser, tout est installé, et il peut le faire, tu vois. Et il saute. Il saute, il établit un nouveau record, 281 mètres, 6 mètres de plus que le précédent record qu'il avait fait. Et il dit à son pote Dasher, putain, c'est ouf, j'ai une sensation incroyable et je pense que je peux faire un dernier record, vas-y, demain, c'est mon ultime saut, après j'arrête. Et à la base, il était monté pour juste retirer l'installation et là, c'est plus du tout d'actualité. Là, c'est rendez-vous le lendemain pour un nouveau saut record. Le truc, c'est que Dasher, il le sent pas trop, il a un mauvais pressentiment, il essaye de calmer un peu Dan et lui dire, bah, écoute, c'est peut-être too much, tu vois. Mais Dan, il est sûr, il est en mode, non, t'inquiète, tout est installé, je viens de vérifier, on peut y aller. Vraiment, il lui met un peu la pression. Et Dasher, en checkant un peu le système et en faisant le double check de sécurité, il se rend compte que Dan, il a mis 1000 pieds de corde, donc 304 mètres. Et pour rien arranger, en plus, Dan va sauter d'un angle un peu différent de celui d'habitude, ce qui l'oblige en fait à sauter par-dessus la fameuse ligne horizontale. Et cerise sur le gâteau, il commence à faire assez sombre en fait, parce que la nuit commence à tomber. Et du coup, Dan ne pourra pas voir visuellement cette ligne, il va devoir un peu sauter dans l'aveugle. Et Dasher, il a beau essayer de le raisonner, il n'y a rien à faire. Dan commence déjà le compte à rebours, il lui met la pression en mode 15, 14, 13. Et il s'arrête, il regarde Dasher, il lui fait bah, c'est bon, t'as assez de place et tout. Parce qu'en gros, Dasher, il est sur un petit bout de rocher à côté, il est censé être là pour lui envoyer la corde après et le remonter. Et du coup, Dasher lui dit ouais, t'inquiète, genre. Chelou, tu t'interromps comme ça, enfin voilà, tu vois. Et Dan, il reprend, tu vois, 12, 11, 10, 9, et il s'arrête, tu fais, oh, tu m'as dit un truc. Et Dasher en mode, non, non, du tout, j'ai rien dit et tout. Et normalement, Dan, il s'arrête pas dans le compte à rebours, il le fait dans sa tête, il essaie de maîtriser son ki, son énergie vitale, et normalement, il dit à haute voix seulement le 4, 3, 2, 1 quand il y va, tu vois. Et là, le fait qu'il s'interrompe deux fois, déjà, c'est chelou, et Dasher a pas envie de lui mettre la pression maintenant, parce qu'il est sur le point de sauter. Et Dan reprend, 5, 4, 3, 2, 1, et il saute. Et là, Dasher raconte que il voit Dan sauter, il voit sa frontale disparaître dans l'obscurité. Et là, les secondes sont longues parce qu'on est à 304 mètres, le temps de chute est beaucoup plus long que sur les précédents records. Et il se passe pas mal de temps, ça commence à inquiéter Dasher, et heureusement, la corde horizontale commence à se tendre et fait ce bruit de fouet typique. Sauf que le bruit de fouet s'interrompt un peu au milieu. Au même moment, il entend Dan qui crie un truc bizarre et en même temps un bruit de fracas comme si un arbre s'était cassé en deux. Et là, Dasher panique, il installe un rappel de 300 mètres, il descend le plus vite possible les 300 mètres de falaise, il arrive en bas dans l'obscurité, il voit Dan allongé comme ça paisiblement sur un espèce de buisson, il se rapproche, il check son pouls et il n'y a rien. Dan Osman est mort. Deicher panique, appelle donc les secours des potes de Dan, et en fait les secours ne peuvent pas atteindre l'endroit où Dan est tombé parce qu'à cause des intempéries le chemin est juste impraticable et la randonnée est vraiment extrême pour y accéder, et du coup certains potes de Dan vont carrément camper et dormir à côté de son corps sans vie pour éviter que d'éventuels ours ou coyotes mangent sa dépouille en fait. Tout le matos de Dan sera envoyé à Black Diamond, qui est une marque de matos d'escalade, ils font des cordes, des mousquetons, etc. Eux, ils vont analyser très précisément la corde, et ils vont d'ailleurs dire que c'est fou à quel point la corde de Dan était en super état malgré les innombrables sauts, malgré le fait qu'elle soit restée un mois sous la pluie, les intempéries, la glace, normalement faut vraiment pas faire ça. Et du coup, ils vont conclure que c'est simplement une erreur humaine, et qu'a priori, le fait que Dan ait pris un angle de saut différent de d'habitude, ça a créé un nœud sur la corde, et au moment de l'impact et de la forte tension dans la corde, ce nœud est rentré finalement en fusion avec les frottements, ça a fait fondre la corde, ça l'a brisé, et c'est à cause de ça du coup que Dan Osman est mort. Et c'est ainsi que Dan laissera derrière lui sa fille Emma, sa femme et toute la communauté de l'escalade, très endeuillée. Et aujourd'hui encore, beaucoup de grimpeurs lui rendent hommage, ça reste une légende incontestée. Il a marqué son sport, l'escalade, mais surtout le free solo et la chute libre sur corde, et ses exploits resteront à jamais gravés dans la vallée du Yosemite. C'était l'histoire extraordinaire de Dan Osman malgré cette fin tragique, j'espère quand même que ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres personnalités atypiques dans ce genre de format, faites-le nous savoir en commentaire. Et juste là, t'as une vidéo où on essaye notre très humble échelle de la chute libre sur corde, comme Dan Osman en plein Paris.